regarde au voisin. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. À l'occasion de la journée nationale de mobilisation contre le harcèlement à l'école, nous nous intéressons aujourd'hui à la violence entre les élèves. Quand des enfants deviennent de véritables souffre-douleurs de leurs congénères, qui eux-mêmes se transforment en bourreaux. Ce phénomène n'épargne aucun pays. Coups, brimades, insultes, humiliations, cette violence se prolonge maintenant au-delà des heures de cours et c'est bien le problème, loin du regard des adultes avec les réseaux sociaux. En France, plus de 700 000 élèves subissent une situation de harcèlement scolaire entre l'école primaire et le lycée. Ce sont des estimations évidemment qui émanent du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire presque 10% des élèves quand même. 61% de ces élèves harcelés disent avoir des pensées suicidaires. Alors non, il ne s'agit pas de simples histoires d'enfants. Mais comment détecter ces très jeunes victimes, briser leur isolement? Comment mobiliser aussi les écoles, les familles dans la prévention? Nous allons en discuter avec nos invités. La psychologue Catherine Verdier, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un livre sur les bonnes relations à l'école, J'aime les autres. Et vous êtes vice-présidente de l'association Marion la main tendue contre le harcèlement scolaire. Marion, vous pouvez nous rafraîchir la mémoire.
Marion, enfin c'est une association qui a été créée par Nora Fraisse, qui est donc la maman de Marion, qui s'est suicidée en 2013 suite à du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement.
Avec nous un papa, bonjour Ian Monk.
Bonjour.
Votre fille Émilie s'est suicidée à l'âge de 17 ans.
Oui, c'est ça.
Elle avait subi plusieurs années de harcèlement scolaire, oui, depuis le collège, depuis la classe de 5e. Elle a laissé des textes tout à fait bouleversants qui racontent ce qu'elle a vécu et qui ont donné ensuite un livre,
oui,
Restez fort, précisément toute la difficulté quand on est adolescent et victime du groupe. Restez fort, non?
Oui, c'est ça. En fait, nous avons décidé de publier ces textes parce que on nous a dit que ça exprimait très très bien le mécanisme du harcèlement et harcèlement de tous les jours et comment on peut vivre ça, quoi.
Ouais, un véritable étau, hein, quand on passe toutes ces récréations aux toilettes par terreur.
Donc elle se cachait pour lire ses livres, etc. Elle se sentait différente parce qu'elle n'était pas entre guillemets comme les autres, c'est-à-dire qu'elle était un peu intello. Elle s'intéressait pas trop à la mode quand elle avait 16 ans.
Oui, mais ça ne suffit pas pour se faire envoyer des équerres à la tête. Appelez-nous, les voisins et les voisines, si vous vous sentez concernés par ce sujet de la violence entre les élèves à l'école, que ce soit à l'école primaire ou au lycée. Appelez-nous dès maintenant, surtout n'attendez pas la fin de l'émission, au 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Catherine Verdier, est-ce qu'il y a aujourd'hui une définition en France du harcèlement scolaire?
La définition, oui, elle est très claire. C'est lorsqu'un enfant est subi de la part d'un ou plusieurs autres enfants une violence qui est répétée et avec l'intention de nuire.
Violence verbale ou physique?
Alors, la violence, il y a cinq types de violences, effectivement. La violence physique, la violence verbale, qu'on comprend très bien. La violence sociale, qui est beaucoup plus insidieuse, c'est-à-dire le rejet, un enfant qui est rejeté, qui n'est pas considéré dans le groupe et qui n'a pas le droit de participer à des activités de groupe, qui est mis de côté. Vous avez le harcèlement sexuel, qui existe aussi chez les jeunes, et puis le cyberharcèlement, bien sûr.
Quelle est l'ampleur du phénomène aujourd'hui?
En France, on dit il y a, ce ne sont pas mes statistiques, ce sont les statistiques du gouvernement, donc il y a 12% de harcèlement en primaire, 10% au collège. Maintenant, selon mon propre point de vue, en face de chaque victime, on a un harceleur, je le mets au masculin, mais il est aussi très souvent au féminin. Plus, et c'est là qu'est la problématique du harcèlement, tout un groupe de 3 ou 4, voire plus, tout autour du harceleur. Ce groupe est plus ou moins proactif. Voilà. Donc vous faites les calculs, vous faites les chiffres, vous faites 700 000 multipliés par 4, 5, 6. Mais en fait, moi, je le constate
plus
au travers
tous
de
tous
mes...
les élèves qui assistent à cette violence.
C'est exactement ça. Moi, je pense que chaque élève, chaque enfant est confronté à une situation de harcèlement. Je ne dis pas qu'il est victime ou harceleur, mais au moins témoin.
Yann Monk, vous pouvez nous raconter ce qu'a vécu votre fille Émilie à partir de la classe de 5e et
à partir des textes. Je préfère raconter ce que j'ai vécu moi-même.
Oui, bien sûr, en tant
que
père.
Parce que moi, quand j'étais élève, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'elle a vécu Émilie. On lit dans ses écrits, j'ai écouté ce qu'elle m'a raconté, mais ce que je sais, moi, c'est qu'il y a 30 ans en Angleterre, je me faisais harceler, mais violemment. Et je pense que je suis devenu écrivain parce que j'ai appris à faire peur aux gens avec les mots. Et j'ai appris à me défendre comme ça. Et puis il y a le deuxième tête de turc qui est arrivé après moi. Et je dis aux autres, vous attaquez lui, vous attaquez moi. Est-ce que vous voulez que je vous détruise avec mes mots aussi ou pas?
Ça veut dire que l'histoire de votre fille a fait ressurgir en fait ce que vous avez vécu. Oh,
complètement, oui. Et c'est pour ça que j'en ai parlé avec Émilie. Énormément. Et elle m'a pas tout raconté parce qu'elle avait peur de me raconter tout ça.
Elle a peu raconté les années où elle vivait le harcèlement, non? Elle a parlé a posteriori.
Elle m'en a parlé un peu pendant ce temps-là, mais je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de vivre ça. Quoi.
Mais alors, chacun a ses moyens de... Pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on parle, elle raconte dans ses textes.
C'est être harcelé, c'est être tout le jour sous la pression, sur une pression...
C'est-à-dire qu'à chaque heure de la journée, le seul moment où elle est au calme et en paix, c'est quand elle est aux toilettes pendant la récréation. Sinon, ce sont des insultes, ce sont des crachats, ce sont des équerres qui sont lancés en pleine tête, des insultes en plein cours. Les adultes assistent à ce harcèlement.
Mais on se rend pas, je sais pas, on refuse de...
On la traite de clocharde si elle n'est pas habillée à la mode.
Ouais.
Comment se fait-il que les adultes assistent à ce harcèlement-là?
Parce que je pense que le professeur en France, et ailleurs d'ailleurs, ne se rend pas compte que quand on est professeur, il y a aussi un travail social lié à ça. On n'est pas que les gens qui enseignent le français, les mathématiques ou autre chose. Il faut savoir aussi s'occuper des élèves dans sa classe, quoi.
Qui peuvent
avoir des difficultés différentes. Donc, ça peut être le harcèlement, ça peut être le problème avec leurs propres parents, ça peut être... Mais je pense que les professeurs doivent se rendre compte qu'ils sont un petit peu responsables du bien-être des élèves dans la classe, quoi.
Votre fille a développé une phobie scolaire, tout d'abord. C'est ça?
Oui.
Une peur d'aller à l'école?
Oui. Quand on s'est vraiment rendu compte de la gravité du problème, c'est le jour où elle partait de chez moi et tremblait devant la porte, quoi.
Elle était en quelle classe?
Elle était en cinquième. Non, quatrième. Quatrième.
La phobie scolaire, c'est l'impossibilité, effectivement, d'aller à l'école, mais l'impossibilité physique avec des symptômes, effectivement.
Elle devait partir à 8 heures du matin, je ne sais pas, au collège. Elle était prise par une attaque de panique. Elle n'arrivait pas à partir de chez moi. Quoi.
Son suicide est intervenu bien après. Hein. Elle s'est donné la mort, elle avait 17 ans.
Ouais.
Vous l'avez vu plonger dans la dépression.
Ouais.
Vous estimez que les années de harcèlement scolaire sont en grande partie responsables de sa dépression?
Honnêtement, je ne sais pas. Mais évidemment, ça n'a pas aidé.
Vous avez décidé de publier les textes de votre fille, qui sont des textes centrés sur ce qu'elle a vécu à l'école. Pourquoi vous avez décidé de publier ces textes?
Parce que visiblement, elle voulait qu'ils soient publiés, quoi.
Pour aider les autres?
Ouais.
Rester fort?
Ouais.
Ce que moi je ne parviens pas à faire?
Bah, en fait. Elle a commencé vraiment ce récit autobiographique quand ça allait mieux, entre deux moments de dépression. Et je pense que malheureusement, le fait d'avoir écrit ça l'a replongée dans la dépression. Enfin, je soupçonne fort. Mais ce qu'elle voulait faire, c'était dire aux gens... on peut en parler avec les autres, rester fort pour qu'on puisse tous sortir de la merde, quoi.
Ouais, rester fort et surtout en parler, et ça semble si difficile, même à l'heure actuelle, où la parole se déverrouille, on en parle dans les médias, il y a une journée nationale, et pourtant, sur le terrain, il ne se passe pas grand-chose. On en parle avec vous, Catherine Verdier, ça sera juste après Real Thing. Parlons de la violence scolaire aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. La violence, plus que de la violence, le harcèlement, c'est-à-dire une violence répétée, une violence qui conduit vraiment à la destruction des enfants, à la destruction de leur confiance en eux, avec des résultats scolaires d'ailleurs qui baissent parfois, pas forcément un isolement. Vous nous le disiez, Catherine Verdier, en quelques mots, s'il y avait trois mots à retenir pour comprendre ce que c'est qu'un élève harcelé scolairement.
Un élève harcelé, les symptômes d'un élève harcelé, c'est généralement un désinvestissement scolaire ou un surinvestissement, à l'inverse. C'est un désinvestissement social. Ce sont des bobos, des maux de tête, des maux de ventre. Et puis, ce sont parfois des problèmes de sommeil, des problèmes d'alimentation. 20% des phobies scolaires sont dues à du harcèlement scolaire. Et puis, des symptômes dépressifs.
Vous nous appelez au 33.
Ouais, ouais, j'allais dire justement, je suis content que vous ayez dit sur investissement scolaire.
Votre fille était très bonne élève.
Ma fille était première de sa classe. Ouais, quoi. Ouais. Et donc, les professeurs ne voyaient pas, entre guillemets, ce qui se passait, parce que tout se passait bien.
C'est pratique, un bon élève, c'est très pratique.
Les notes se passent bien, donc tout se passe bien. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 si vous êtes parent, lycéen, si vous êtes concerné par le sujet, un sujet dont on parle trop peu. Claude, vous êtes à Libreville, au Gabon. Bonjour Claude.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous souhaitez nous parler de votre fille de 8 ans qui est harcelée à l'école ?
Oui, c'est effectivement cela.
De quoi s'agit-il ?
Bon, en fait, depuis que nous sommes on a aménagé ici à Libreville, on l'a inscrite dans une école, elle était au CM1, et quelques mois après, on a constaté que la petite se faisait harceler. Ben, au départ, on ne savait pas. On pensait que qu'elle s'amusait quand elle nous le disait. On ne prenait pas ça au sérieux.
Qu'est-ce qu'elle vous disait exactement, votre petite fille de 8 ans en CM1 à Libreville ?
Quand elle venait à la maison, elle pleurait. On ne comprenait pas ce qui se passait.
Oui.
Nous, on se disait peut-être qu'elle s'est battue, mais elle ne disait pas grand-chose, juste que les autres embêtaient à l'école.
Oui.
C'est ce que nous, on pensait. Mais maintenant, c'est quand un jour, on l'a vu revenir à la maison avec un petit groupe de camarades, de ses camarades de classe, et il a la violenté en un mot. Mais elle essaie de se débattre pour arriver jusqu'à la maison. C'est depuis ce jour qu'on a un peu plus pris conscience de ce qu'elle disait à l'école.
C'est-à-dire que donc elle était harcelée sexuellement ?
Oui, c'est ça. Il manipulait un peu ses organes parce qu'elle avait 8 ans et les autres, apparemment, on a essayé de chercher les âges des autres. On se rend compte que les autres avaient 13 ans, 14 ans comme ça dans sa classe.
Ah, d'accord. Il y a des élèves plus âgés qu'elle dans sa classe qui ont un petit retard scolaire. Vous avez été voir le chef d'établissement. Vous l'avez changé d'école ?
On est allé voir le chef d'établissement dans le premier établissement où ça a commencé. Il a dit qu'il va en parler aux parents d'élèves. Il a parlé, mais ils n'ont pas arrêté. On a dû aller voir les autorités. Et là, ils nous ont dit non, les enfants, ses camarades de classe sont les mineurs. On ne peut pas intervenir sur les enfants, mais par contre, sur les parents, ils allaient faire quelque chose. Ils ont convoqué les parents au commissariat. Et là-bas, ils se sont expliqués. Maintenant, on leur a demandé de juste bien éduquer leurs enfants.
Mmh.
Ben, plus tard, ça n'a pas marché parce que ça continuait toujours.
Ah oui.
Là, maintenant, on a dû changer l'enfant à l'école.
Et là, comment ça se passe dans la nouvelle école ?
Dans la nouvelle école, c'est pas comme dans l'ancienne école, mais on se rend compte que c'est presque pareil parce que beaucoup d'enfants ont en retard dans la ville aussi, nous sommes là beaucoup, un peu en retard. Donc, c'est ce qui fait en sorte que la majorité sont plus grands.
C'est ça,
plus grands en âge
évidemment. Donc, il y a ce décalage d'âge avec des garçons qui sont déjà en puberté et donc ça crée un problème. En tout cas, l'affaire avait été prise quand même au sérieux puisque les parents ont été convoqués au commissariat, mais ça n'a pas été suivi des faits, c'est ce que vous nous dites.
Oui, oui.
Catherine Verdier, qu'est-ce que vous pensez du témoignage de Claude ?
C'est malheureusement un petit peu typique, entre guillemets, c'est-à-dire que les écoles sont très souvent, pas toutes, faut bien le dire quand même, mais très souvent dans le déni, ou alors quand elles ne sont pas dans le déni, elles ne savent pas quoi faire. Je parle des enseignants, je parle de la direction. Ils sont parfois démunis, parfois plein de bonne volonté. Mais effectivement, le harcèlement scolaire, en tout cas, ça ne s'arrête pas avec du bricolage. Il faut des vraies méthodes, il faut une vraie réflexion par rapport au harcèlement et une vraie compréhension de la dynamique du harcèlement pour savoir comment et ce qu'on doit faire.
Est-ce qu'aujourd'hui, le phénomène des harceleurs est lié au phénomène de la recherche de popularité ? On veut être populaire dans sa classe.
Alors, il y a cette recherche-là, bien sûr, la recherche du nombre de likes, parce que ça fait bien.
Via les réseaux sociaux.
Il y a les réseaux sociaux, bien sûr, mais on a aussi une violence qui n'est pas contenue. Une violence verbale, très souvent, qui n'est pas contenue. Vous allez dans une cour de récréation, j'aimerais pas être élève actuellement, hein. Franchement, c'est pas très agréable. Il y a une espèce de tension, une espèce d'électricité dans les écoles qui sont assez terribles. Maintenant, les raisons du harcèlement, elles sont multiples. Hein.
Claude, qu'est-ce que vous diriez aux autres parents qui nous écoutent, peut-être, dont les enfants ne parlent pas, ne viennent pas se plaindre, comme l'a fait votre fils qui vous a permis quand même de la protéger un minimum ?
Bon, à ses parents, je vais leur demander aussi de faire peut-être comme j'ai fait, hein, parce que je ne pense pas qu'il y ait une autre situation, parce que ici, même si on porte plainte, là, ils vont toujours payer une caution. Après, on va les libérer. Donc, Ouais. Apparemment, c'est...
Eh ben, le problème n'est pas simple. On est là pour en parler. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash. Merci pour votre appel, Claude. Vous continuez de nous appeler.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire aujourd'hui. Ces violences, ces insultes verbales, physiques, répétées. Catherine Verdier nous en parle avec nous, psychologue. Vous publiez « J'aime les autres ». Vous êtes vice-présidente de l'association Marion, la main tendue contre le harcèlement scolaire. Ian Monk, vous publiez « Restez fort » à partir des textes posthumes de votre fille, Émilie, qui s'est donné la mort à l'âge de 17 ans après plusieurs années de harcèlement scolaire. Vous nous en parliez en première partie d'émission. Cela a commencé en classe de 5e au collège. Un véritable complot contre votre fille, par plusieurs élèves, la force du groupe, là aussi, un phénomène tout à fait mondial, mais dont on ne parle pas forcément beaucoup dans certains pays. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 60 71. C'est une notion, ce harcèlement scolaire, encore, je dirais pas mal connue, mais dont on parle peu sur le continent africain, parce qu'on parle plus souvent des châtiments corporels infligés par les maîtres à leurs élèves ou du harcèlement sexuel entre enseignants et élèves. Néanmoins, la violence entre les élèves existe bel et bien. On est en ligne au Congo-Brazzaville avec notre correspondant Loïcia Martial. Bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel et bienvenue à Brazzaville où le soleil est un peu doux.
Eh bien, vous avez de la chance, Loïcia. C'est un sujet donc dont on parle de plus en plus à Brazzaville suite à certains événements.
Oui, effectivement, Emmanuel Bastide, les violences en milieu scolaire sont un phénomène qui prend de l'ampleur et inquiète. Elles sont plus observées dans les écoles publiques que dans les établissements privés où il y a un peu plus de discipline. Le dernier cas de violence enregistré remonte au 19 octobre dernier. La scène s'est déroulée au lycée Thomas Sankara dans la partie nord de Brazzaville où une bagarre rangée entre les élèves de ce lycée a fait plusieurs blessés, parfois graves. Il a fallu une intervention musclée de la police pour arrêter cette bagarre. La police a surtout fait usage des bombes lacrymogènes. Les élèves qui ont inhalé ces bombes et d'autres qui se sont retrouvés avec des blessures ont été admis à l'hôpital où ils sont restés en observation et bénéficient des soins.
Mais pourquoi ces violences deviennent courantes dans les écoles à Brazzaville, dans les lycées ?
Bon, il y a diverses explications, Emmanuel. Pour les autorités nationales en charge de l'éducation, les violences scolaires partent d'abord du milieu urbain. Dans certains quartiers de Brazzaville, je prends un exemple, il y a des gangs qu'on appelle les Arabes et les Américains. Par effet de mode, dans certaines écoles, des élèves ont copié ces noms. Oui. Entre eux, il y a des lignes infranchissables. Ils ne s'entendent jamais, ils s'affrontent avant les cours ou à la fin de l'heure. Entre eux, tous les coups sont permis. Ils utilisent parfois les gourdins, les armes blanches et même les cailloux pour se lapider. Les chefs d'établissement, quant à eux, estiment que les effectifs pléthoriques dans les salles de classe appellent aussi la violence. Souvent, les tables bancs ne suffisent pas et les élèves se les disputent en se donnant des violents coups. Les élèves eux-mêmes avancent que l'accoutrement des jeunes filles en âge de puberté peut aussi expliquer la violence. Des jeunes garçons se les disputent et usent aussi de la violence pour les gagner, alors qu'il s'agit d'un problème sentimental.
Ah oui.
Enfin, il y a ce que les sociologues pointent du doigt, le laxisme des parents. Ceux-ci sont accusés d'avoir faussé l'éducation de base de leur progéniture et font reposer toute la responsabilité sur leurs formateurs, qui sont donc les enseignants.
Ouais. Mais ce n'est pas si simple, ce n'est pas forcément un problème d'éducation, encore que, évidemment, qu'est-ce qui fait qu'un enfant devient harceleur ? Merci à vous, Loïcia Martial, RFI, Brazzaville, Pointe-Noire, 93.2. Merci d'avoir été avec nous. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Un voisin nous appelle, Mickey, à Libreville, au Gabon. Bonjour, Mickey.
Bonjour, Emmanuel.
Vous souhaitez nous parler de votre fille qui est au lycée français ou qui était au lycée français de Libreville ?
Ben oui, elle est restée 3 ans et puis...
En quelle classe exactement ?
En cinquième.
Cinquième, quatrième, troisième, c'est ça ?
Oui.
Oui.
Donc elle se faisait gifler, elle se faisait bastonner, elle se faisait talonner tout le temps en récré. Et puis, bon, comme ça, elle a dû me le cacher pendant au moins 6 mois. Voilà, et puis, bon, un matin, bon, elle me dit, comme expliquait le monsieur tout à l'heure que vous avez comme invité, là, il disait, bon, ben voilà, l'enfant ne voulait plus aller à l'école. Et puis, elle ne voulait plus y aller, le jeu est forcé, parce qu'il fallait qu'elle passe son BEPC. Mm-hmm. Et puis, après ça, ça continuait de plus belle. Et un jour... elle m'a présenté les petits qui le faisaient.
C'était donc des filles, hein, c'est bien ça?
Non, c'était des petits garçons.
D'accord.
Des petits garçons et une fille.
Mm-hmm. Donc ils étaient plusieurs.
Et, bon, alors, mais, bon, voilà, qui l'a traité de noir, de négresse, de singe. Et ça a été comme ça chaque fois. Et puis quand j'ai appris ça, donc j'ai failli saisir les trois petits. Pour les présenter à la direction. Bon, ça, je n'ai pas pu le faire parce que je ne voulais pas rentrer en conflit avec mes parents.
Ouais.
Mais seulement, j'ai signalé à la direction qui a négligé, qui a complètement négligé. Donc, il m'a dit, bon, écoutez, ce sont des enfants, hein, ils ont l'habitude de jouer, ça fait partie de leur enfance.
Oui, ça ne s'appelle pas un jeu, hein, ça s'appelle du racisme. Oui.
Mais voilà. Donc, ça a été comme ça. Et puis, on a été obligés de... la changer d'établissement, inscrite à l'Immaculée Conception de Libreville au lycée, collège. Voilà, et c'est comme ça. Alors que j'aurais voulu qu'elle continue, qu'elle puisse avoir son bac dans cet établissement, que j'ai financé ses études et tout ça. Mais c'est quand même terrible qu'on n'arrive pas à avoir une certaine sécurité dans les lycées français, enfin les lycées français et surtout celui de Libreville, et qu'on n'arrive pas à avoir des psychologues. Peut-être qu'il y en a maintenant, mais moi, Mais à l'époque, bon, ça a été. Puis moi, je n'ai pas apprécié du tout, donc je suis obligée de...
Ouais, il n'y a pas que les lycées français de l'étranger qui sont touchés, hein. C'est assez généralisé. Merci beaucoup, Mickey, de nous avoir appelés. On le voit bien, on commence à en discuter, hein, mais c'est quand même beaucoup moins... c'est plus difficile aussi, parce que c'est toujours gênant pour un établissement, forcément, hein, que ce type de paroles se déchire.
J'ai envie de...
D'autant plus un établissement UP.
J'ai envie de deux choses là. C'est que c'est aussi aux parents de éduquer les enfants dans le respect des autres. C'est-à-dire que souvent, quand on parle du harcèlement scolaire, on projette tout de suite son enfant en tant que victime et on ne pense pas que son enfant pourrait être harceleur ou au moins un témoin passif. Et donc, voilà, il faut aussi éduquer ses enfants dans le respect des uns des autres.
Il faut s'intéresser à la personnalité de ces jeunes qui harcèlent d'autres enfants. Qui sont-ils exactement? Est-ce qu'il y a un profil, Catherine Verdier? Vous dites dans votre livre que, d'ailleurs, le harceleur n'est pas, ou la harceleuse, n'est pas un enfant bien dans sa peau non plus, du tout.
Pour avoir besoin de rabaisser, de détruire quelqu'un, il ne faut pas être bien dans sa peau. Il faut avoir une estime de soi qui n'est pas très haute, qui est même très basse. Parce que pour avoir besoin de ça, pour avoir besoin de voir l'autre détruit, c'est qu'effectivement, soi-même, si on a besoin de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement.
Je me souviens très bien, j'étais témoin avec ma première fille, dans un parc à Paris, où le père disait à son fils, alors qu'il y avait une file d'attente pour le balançoire, pousse, il faut toujours être le premier.
Oui.
Et je pense que c'est peut-être un futur harceleur.
Il y a un effet éducatif, sûr, avec des enfants qui sont parfois tyranniques, avec des personnalités assez fortes, charismatiques, etc.
Et qui ont été élevés dans le ne te laisse pas faire.
Probablement.
Comment lutter? Alors là, on voit bien qu'on est dans des implications complètement culturelles, hein, dans nos sociétés, mais comment lutter concrètement contre le harcèlement scolaire aujourd'hui du côté des établissements scolaires, puisque c'est quand même bien là que prend racine le harcèlement entre enfants et la violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, et qui peut avoir des conséquences absolument catastrophiques sur ces enfants qui se construisent.
On va revenir peut-être tout à l'heure sur les conséquences à court terme et à long terme, parce qu'il y en a aussi chez les adultes qui ont été harcelés. Maintenant, un établissement, effectivement... moi, je suis un peu frappée dans les témoignages qu'on entend. enfants. Et vous-même, vous dites, est-ce que vous avez changé d'école ? Est-ce que vous avez changé votre enfant d'école ? Donc, en fait, la solution, c'est de changer l'enfant d'école. Non, c'est pas ça la solution. C'est toujours à la victime de trouver une solution. C'est toujours à la victime d'aller se protéger et de partir de l'école. Alors que ça ne devrait pas être. Ce ne devrait pas être ça.
La honte doit changer de camp.
Exactement. Tout à fait. Une victime d'agression n'a pas à se justifier. Elle n'est pas coupable. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, c'est les établissements scolaires comme ça qui laissent faire, qui ne prennent pas en compte ou qui sont dans le déni par rapport au harcèlement scolaire. Ils enseignent à nos enfants des valeurs qui sont contraires à la citoyenneté, c'est-à-dire la loi du plus fort, la loi du silence et la non-assistance à personne en danger. Et aujourd'hui, le harcèlement, il est mondial, puisque le livre de Nora Fraisse a été traduit dans plusieurs langues au travers le monde.
Cette maman dont la petite fille Marion s'est suicidée,
tout à fait,
qui est présidente de cette cyberharcèlement, c'est-à-dire où le harcèlement continuait le soir via les réseaux sociaux, les insultes, etc.
Complètement. Et donc le harcèlement existe partout aujourd'hui, quoi. Et il faut pas, on peut pas me dire mon établissement il y a pas de harcèlement.
Aujourd'hui, les expériences à l'étranger les plus intéressantes. Je sais que vous dites souvent qu'en France, oui, on parle beaucoup, mais on fait pas grand chose.
Je confirme. Non, je confirme. Aujourd'hui, on a donc la sortie d'un clip du gouvernement national, du gouvernement de l'éducation nationale. Et puis l'année dernière, on a eu un clip du gouvernement.
Et entre deux clips, qu'est-ce qui se passe dans les écoles ?
Entre deux clips, on a eu quelques protocoles, je crois, qui ont été mis en place. Mais bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de professeurs qui les ont, quoi. On a des référents harcèlement dans les académies.
Il y a des collèges où il y a des enfants qui deviennent des ambassadeurs, par exemple.
Tout à fait. Il y a des initiatives un tout petit peu personnelles par rapport à certains établissements, par rapport à certains professeurs, certaines directions qui décident de se mobiliser et de mettre en place, puisque nous, au niveau de l'association, on a beaucoup de demandes. Donc ça existe, il y a une demande qui existe.
En fait, que devrait faire un établissement, qu'il s'agisse d'une école primaire, d'un collège ou d'un lycée ? Au lycée, c'est très peu de cas, quand un parent vient voir le chef d'établissement en disant « Écoutez, ma fille, mon fils se plaint, il a reçu des coups, il est insulté, se passe aussi à la maison via les réseaux sociaux », que devrait faire le chef d'établissement ?
Alors déjà, il faudrait déjà écouter l'enfant, il faudrait déjà l'entendre, parce que bien souvent, c'est le problème de la parole des victimes, quelles que soient les victimes d'agression.
Ensuite, concrètement
Il faut l'entendre, mais c'est-à-dire il faut la prendre en compte, et puis s'en occuper. Et puis, il y a des méthodes qu'on appelle la méthode Picasse, par exemple, qui sont là, qui
sont des protocoles.
Méthode suédoise, qui sont ou le programme Kiva, qui sont des méthodes pour lutter contre le harcèlement, contre une situation de harcèlement scolaire. C'est-à-dire que ce sont des méthodes qui définissent le harcèlement scolaire comme étant un phénomène de groupe et partent du principe que dans ce groupe de témoins, il y en a toujours un, à un moment donné, qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Donc, prendre en charge la victime, ça, il faut le faire. Sanctionner le harceleur, s'il y a à sanctionner, pas de souci. Mais surtout, s'attacher, c'est comme ça qu'on arrivera à détricoter des situations, s'attacher au groupe.
Travailler avec les suiveurs, en
exactement,
fait.
Exactement. Avec tous les témoins qui soient plus ou moins proactifs.
Ian Monk, vous étiez en contact avec le principal du collège de votre fille durant les années où elle subissait ce harcèlement scolaire ?
Oui. Oui, le deuxième point que je voulais soulever tout à l'heure, c'est que nous, à l'époque, on vivait dans un quartier populaire, vraiment pauvre, à Lille. Et on pensait bien envoyer nos filles dans une école privée. Et malheureusement, on peut aussi tomber sur une situation où... il y a le fils de notables, de riches, etc., qui se croient de tout permis. Et quand on se plaint, le principal du collège ne veut pas il ne dit rien parce qu'il veut pas détruire la réputation
de son
établissement.
C'était le cas pour votre fille. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas convoquer les parents des filles qui harcelaient votre fille.
Même il nous a dit, on a eu un cas similaire il y a un ou deux, et j'ai fait convoquer le père.
Le père d'un harceleur,
et il m'a dit je suis avocat à la barre de Lille, si vous faites quoi que ce soit, j'attaque le collège. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, j'ai dit, pousser une paire, quoi. Faites quelque chose.
Vous avez attaqué le collège en justice depuis le suicide de votre fille.
Oui.
Il y a une loi qui, depuis août 2014, qui punit le harcèlement scolaire. Hein. Donc, vous pouvez, enfin, ceux qui subissent ça ont le droit d'aller porter plainte. Et,
dans les faits, il y a peu de condamnations quand même.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas que dans les établissements. Dans les quartiers pauvres
Vous voulez dire que le harcèlement scolaire, la violence avec insistance répétée n'est pas liée à l'origine sociale des élèves, Catherine Verdier?
Non, il y a du harcèlement, effectivement, dans les lycées privés UP, dans les lycées publics UP, pas UP, peu importe. Quel que soit le milieu, elle est partout. Vraiment, elle est partout.
Alors, comment agir avec son enfant quand il est victime ou quand il est d'ailleurs harceleur? Comment prendre ces choses-là très au sérieux? On va parler aussi des conséquences du harcèlement scolaire dans quelques instants. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Sissoko chez 7 milliards de voisins. Nous parlons du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, c'est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire en France, mais c'est un phénomène mondial. Vous nous l'expliquiez, Catherine Verdier, Ian Monk. Aujourd'hui, les parents, évidemment, se sentent concernés potentiellement ou réellement. Ils veulent des solutions. Les établissements scolaires, les enseignants savent que le phénomène existe, sont témoins, parce que les enseignants sont quand même ceux qui sont aux premières loges tous les jours, dans la salle de classe, dans la cour de récréation. Pourquoi il ne se passe rien? Quelles seraient les solutions? Vous m'avez dit avant qu'on commence l'émission, mais pourtant il y a des choses simples à faire. Ça n'est pas infaisable. Ça pourrait disparaître, en fait, ce phénomène.
Ah, on a tous les outils en main. Pour enrayer, pour enrayer au maximum ou pour faire diminuer en tout cas les situations de harcèlement. Je répète ce que je disais tout à l'heure, on a la méthode Picasse la méthode Picasse quand les professeurs sont formés à la méthode Picasse, donc il faut 2 jours pour former quelqu'un, hein, donc c'est pas pour former un groupe, quand on met en place ce système-là dans une situation de harcèlement, il faut 4 à 6 heures pour sauver un gamin, c'est pas beaucoup, hein.
C'est-à-dire pour démonter le mécanisme
l'emprise
du harceleur.
C'est tout à fait ça.
Avec sa cour autour de lui.
C'est une série de tout petits entretiens, finalement, de 2-3 minutes avec ses témoins. Et chaque semaine, c'est renouvelé chaque semaine.
Ces témoins n'en vont plus suivre les actes de harcèlement. Donc le harceleur se retrouve isolé et donc il n'a plus intérêt à harceler. S'il n'a plus de public.
La dynamique du harcèlement, le fondement du harcèlement, ce sont les témoins, c'est-à-dire c'est le rire. À partir du moment où il n'y a pas de rire, on n'a plus de harcèlement, on a un conflit entre guillemets. Et ce sont effectivement ces témoins qui peuvent faire basculer une situation dans un sens ou dans l'autre.
Que faire quand un enfant ne parle pas à ses parents? Non pas qu'il ait de mauvaises relations avec ses parents, mais parce que votre fille le disait dans ses écrits, Émilie, elle disait je ne veux pas les inquiéter.
Bon, en fait, c'est assez troublant parce que j'estimais que j'avais une communication assez ouverte avec mes enfants et qui m'a raconté plein de choses. Et c'est toujours le cas pour les 3 autres, d'ailleurs. Mais Emily, effectivement, elle avait peur de raconter à quel point elle souffrait au collège, quoi. Parce qu'elle ne voulait pas passer pour une victime, elle ne voulait pas être absurde, ridicule, grotesque devant les autres. Et donc elle cachait la moitié de la vérité. Elle me disait des choses, mais pas tout, quoi.
Bah, ils ne veulent pas inquiéter, effectivement, ils ne veulent pas inquiéter les parents, ils veulent pas c'est difficile quand même pour un enfant de raconter qu'on est traité de nul, de victime à longueur de journée.
Alors, comment faire pour parvenir à connaître la vérité quand on est parent? Pour comprendre à quel point, jusqu'où ça va, en fait.
Pour les tout petits, en tout cas, enfin pour les plus jeunes, je disais tout à l'heure qu'il y a 12% en primaire. Donc pour les plus jeunes, on a quand même le corps, souvent on parle, hein, il y a des symptômes, il y a des bobos, la peur d'aller à l'école, pas envie d'aller à l'école, un enfant qui mange plus, qui dort plus. On a des petits symptômes qui doivent alerter. Tout changement brusque de comportement d'un enfant doit alerter, ça c'est sûr. Pour les ados, ils estiment que c'est leur affaire, ils vont arriver à résoudre cela entre eux, etc. Ça, il faut leur dire absolument que non, ils n'y arriveront pas tout seuls. Il faut l'aide des adultes, il faut l'aide éventuellement des pères, PAIRS. L'idée des ambassadeurs dans les écoles est excellente parce que les enfants ont plus de facilité aussi à parler à des enfants un peu plus âgés ou qui sont à l'écoute et qui peuvent relayer l'information ou qui peuvent signaler qu'il y a un souci et venir en aide. Voilà. Maintenant, les établissements qui mettent en place des ambassadeurs, ils sont déjà concernés par tout ça. Donc,
D'ailleurs, moi, je trouve qu'un effet bizarre du système en France, du collège-lycée, fait qu'au collège, on finit quand on a 15 ans à peu près, alors qu'on est vraiment à l'âge bête. Et chez moi, en Angleterre, c'est un seul collège-lycée de 11-18 ans. Donc, on a devant nous les gens qui ont 18 ans. Donc, quand on a 18 ans, waouh, quand on a 15 ans, on regarde le capitaine de l'équipe de foot ou le jolie fille ou je sais pas quoi. Et il y a des modèles qui inspirent beaucoup plus que le boutonneur des 15 ans. Quoi.
Voilà. Il y a un numéro de téléphone en France, on va le donner, c'est le 30-20.
Le 30-20,
stop harcèlement.
Tout à fait.
Des référents académiques qui existent dans les rectorats aussi. Les parents peuvent contacter ces référents dans les rectorats, référents harcèlement scolaire.
Oui, tout à fait.
Et qui sont en principe formés pour donner la marche à suivre.
Tout à fait.
Si le chef d'établissement ne parvient pas lui-même à prendre la situation en main.
Tout à fait, tout à fait. Et tous ces gens-là sont là. Je pense qu'ils ne sont pas assez nombreux. Je pense qu'ils n'ont pas assez de temps. Je pense qu'ils n'ont pas assez de moyens. Mais ils sont là, en tout cas.
C'est une bataille pour les parents.
Mais c'est une bataille pour les enfants.
Avant tout.
Bah oui, c'est eux qui trinquent. Hein. C'est eux qui... Les conséquences, on parlait tout à l'heure, on ne les a pas trop évoquées, mais les conséquences, effectivement, à court terme, pour les enfants, c'est une estime de soi qui est détruite, hein, qui est vraiment rabaissée. Et cette estime de soi, si elle n'est pas restaurée, par le biais thérapeutique ou autre, à l'âge adulte, on a des adultes qui viennent nous dire, quand on est en conférence, qui viennent nous dire « mais moi j'étais harcelée, mais moi j'ai encore du mal à trouver ma place dans la société, avec mon conjoint, dans la famille, j'ai du mal à aller vers les autres, etc. » Donc les conséquences, elles sont là, mais sur des décennies, quoi.
Vous dites,
vous m'avez posé des questions. Vous m'avez posé des questions tout à l'heure par rapport au suicide de ma fille. Je ne sais pas à quel point, mais c'est sûr, c'est clair et net qu'elle a perdu son estime en soi au collège, et ça l'a plus ou moins conduit au suicide, quoi.
L'estime de soi, c'est ce sur quoi on est fondé, c'est la valeur que l'on s'accorde le matin au réveil, on se lève, se dit est-ce que je vaux quelque chose, quoi.
Stop au harcèlement, il faudrait une journée et beaucoup plus pour parvenir à de vrais résultats.
Beaucoup plus.
Alors qu'Emily était jolie, brillante, machin, elle n'avait pas de
Il faut la lire, et lire Restez fort, donc, c'était sa devise, Emily Monk. Merci à vous, Ian Monk, d'être venu. Le livre est publié aux éditions Slatkin et compagnie. Merci à vous, Catherine Verdier. Vous publiez J'aime les autres aux éditions du Rocher. Merci. À demain, 7 milliards de voisins.